Je salue tout de suite Muriel Balamand, bonjour.
Bonjour Renaud.
L'événement littéraire de ce début d'année 2015, c'est un roman qui n'est pas encore sorti officiellement, il ne sera en librairie qu'après-demain, mais il circule déjà illégalement sur Internet. Ce livre, c'est Soumission de Michel Houellebecq, et s'il fait autant parler de lui ces temps-ci, c'est parce qu'il imagine la France de 2022 gouvernée par un parti musulman.
Oui, voici le décor. Donc nous sommes en 2022 dans une France au bord de la guerre civile, en proie à des affrontements ethniques, des pillages et des meurtres racistes. Le leader de Fraternité musulmane, c'est ainsi que s'appelle le parti imaginé par Houellebecq, devient président de la France. Sa victoire, il la doit à un accord de gouvernement. Le PS et l'UMP acceptent les deux points sur lesquels le nouveau président refuse de transiger: l'instauration de la polygamie et l'islamisation de l'éducation nationale. Et les disparaissent de l'espace public, la Sorbonne devient une uni islamique propriété de l'Arabie Saoudite, et mieux vaut se convertir à l'islam si on travaille dans l'administration.
À une vision que certains qualifient de grotesque, et pourtant, elle fait écho à un discours qu'on entend fréquemment, notamment ces jours-ci en Allemagne.
Oui, avec le mouvement Pegida, c'est un mouvement anti-musulman qui prend de l'ampleur, d'abord à Dresde et qui s'étend ensuite au reste de l'Allemagne. En quelques semaines, il a attiré presque 20 000 adeptes en faisant de la lutte contre l'islamisation de l'Occident sa priorité. Tous les lundis à 18h30, ces gens manifestent. Un sondage confirme la popularité grandissante de ce mouvement. 13% des Allemands se disent prêts à participer à une marche contre les musulmans si elle était organisée dans leur ville, ce qui sera le cas ce soir à Berlin, Cologne, Bonn et dans des dizaines d'autres villes. Et 29% estiment que l'islam a une influence si importante en Allemagne que ces marches sont justifiées.
Alors l'islamisation de l'Europe, délire ou réalité? On va en débattre jusqu'à 8h30, un débat auquel vous avez la possibilité de participer en composant le 0800 23 33 33. Pour réagir, il y a aussi évidemment Facebook et Twitter avec le hashtag ENLD. Il est 8h09, vous écoutez la première.
En ligne directe, Renaud Malik,
Muriel Balamand.
Et tout de suite, j'accueille Mohamed Hamdaoui et Mireille Vallette. Bonjour.
Bonjour.
Et bonne année.
Eh bien, bonne année à vous aussi, Mohamed Hamdaoui, et à vous également, Mireille Vallette. Mireille Vallette, vous êtes notamment l'auteur du livre « Islamophobie ou légitime défiance » paru chez Favre en 2009. Mohamed Hamdaoui, député socialiste au Grand Conseil bernois, coprésident du PS de la ville de Bienne. Je vais peut-être commencer avec vous, Mireille Vallette. Ce portrait de la France de 2022 que dresse Michel Houellebecq dans son livre, à la Sorbonne qui devient une université islamique, les femmes qui sont exclues du marché du travail, c'est du pur délire, là.
Oui, tout à fait. Je pense que ce livre est de pure fiction et pour moi, c'est pas très intéressant de parler de cette thèse-là. En revanche, de l'islamisation de l'Europe, certainement.
Alors, si on se tourne justement vers l'Allemagne et ce discours qu'on entend dans les manifestations du mouvement Pegida, justement, autour de cette notion d'islamisation, là, pour vous, là, on n'est plus dans le domaine du délire?
Absolument pas. L'islamisation est un fait. C'est un fait dans tous les pays européens qui abritent une forte proportion de musulmans, dont une frange ne cesse de poser d'énormes problèmes à nos sociétés. Quant à l'islamisation, vous avez par exemple l'instauration d'un sexisme ahurissant, notamment dans les mosquées. Vous avez le foulard et le niqab et toutes leurs déclinaisons qui sont destinées à empêcher les musulmans de devenir des prédateurs, à les aider à maîtriser leur libido. Vous avez des demandes de dispense de natation. Vous avez la séparation des hommes et des femmes dans ces groupes. Vous avez des demandes d'être soignés par des femmes pour les femmes musulmanes. Vous avez des mariages forcés. Vous avez l'imposition de nourriture consacrée. En Allemagne, de Land, en tout cas, l'ont accepté pour les hôpitaux et pour les prisons. Entre nous soit dit, le contribuable paye, puisqu'on ne consacre pas gratuitement en islam, et c'est même un business extrêmement lucratif. On laisse de plus en plus des appels à la prière se dérouler en Allemagne. La polygamie est existante dans beaucoup de pays européens sous une forme évidemment masquée, c'est-à-dire que des hommes reconnaissent la paternité d'enfants et les femmes sont considérées comme des mères seules et reçoivent des aides sociales tout à fait intéressantes. Le burkini est autorisé dans beaucoup de pays. C'est pour moi une honte absolue que de masquer ainsi le corps des jeunes filles qui seraient soumises à ces prédateurs que sont les jeunes hommes.
Mohamed Hamdaoui, bon voilà, Mireille Valette a listé toute une série, une longue série d'exemples. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que on peut parler aujourd'hui d'islamisation à la lumière de ces différents cas?
Ce que je viens d'entendre est encore pire que ce que j'ai entendu, semble-t-il, qui existe dans le bouquin de Houellebecq. On vit pas dans le même monde, madame. Moi, j'ai jamais vu ce dont vous parlez. Ça fait bientôt 50 ans que je vis en Suisse, puisque c'est mon âge. J'ai pas vu une islamisation de la société. Il y a effectivement nous deux jeunes filles qui portent un voile, un foulard islamique, parce qu'il y a un besoin identitaire, comme les Italiens portaient dans les années 70 des pulls Benetton, parce qu'ils étaient stigmatisés par le reste de la population, et c'était une manière pour eux de montrer ça. Autrement, pour le reste, vous savez, il y a pas si longtemps, j'ai discuté avec le responsable de l'hôpital régional de Bienne pour en avoir le cœur net, parce que je suis aussi journaliste et ça m'arrive de m'intéresser aux faits, pour lui demander est-ce qu'il y a effectivement des demandes particulières dans les hôpitaux, par exemple du fait effectivement qu'un homme ne veut pas être soigné par une infirmière, femme ou autre. Il a dit oui, c'est vrai, on a quelques revendications religieuses, la plupart deviennent de témoins de Jéhovah. Mais arrêtez un petit peu à colporter ce genre de propos qui reposent sur rien, qui reposent sur aucune réalité. Moi, je suis le premier à combattre effectivement toutes les formes d'intégrisme, toutes les formes de sexisme, toutes les formes d'atteinte à l'honneur et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Vraiment, je suis le premier à le faire dans mon combat quotidien aussi en tant que politicien. Mais de laisser colporter de telles rumeurs, moi, ça me sidère. Et j'aime encore juste rajouter une chose. Pegida, effectivement, ces manifestations qui ont lieu tous les lundis, c'est devenu un exutoire. Les gens, ils vont à Pegida. J'ai entendu plusieurs reportages. Ils m'ont dit, parce que pour dire, oui, mais on veut protester contre le pouvoir d'achat. Oui, on veut protester contre le chômage. Oui, on veut protester contre ça. Et puis simplement, tout à coup, il y a quelqu'un qui a avec un emblème, c'est de dire, on va protester contre l'islamisation. On est devenu une espèce de punching ball des aigris et des frustrés. Ça devient absolument exaspérant.
Un punching ball, Mireille Valette. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous avez le sentiment?
Je pense que c'est parfaitement ridicule. Tous les sondages montrent depuis des années en Europe que la majorité de la population est hostile à l'islam et considère que c'est une menace. Les Allemands, dans un sondage, sont plus de la moitié à avoir cet avis. Puisque Monsieur Hamdaoui lutte contre le sexisme, alors est-ce qu'il lutte contre le sexisme des musulmans, des mosquées?
Mais je lutte contre le sexisme.
Est-ce que vous êtes pour l'interdiction du niqab?
Mais moi, je veux dire ça, ce n'est qu'une question de liberté. Naturellement, dans les espaces publics,
Non, mais
vous laissez éventuellement si me poser une question, vous me donnez la possibilité d'y répondre. Il est évident que dans un endroit public, je sais pas, dans un bureau de poste, dans une école ou autre, il faut que les gens aillent avec un visage découvert. Ça, c'est une question de sécurité, une question de respect du reste de la population. Après, le reste, on vit dans une société libérale. Moi, ça me gêne pas qu'on vive dans une société libérale au sens philosophique du terme. Vous savez, à Bienne, il n'y a pas si longtemps que ça, des gens se sont promenés tout nus. Voilà, ça qui trouvait ça rigolo. Je vois pas où est le problème. Moi, franchement, je trouve qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que savoir si une femme se promenait avec un niqab. Vous faites quoi? Alors, vous allez lui dire.
J'ai pas dit que c'était le plus important que la terre affronte aujourd'hui. Hein.
Mais Mireille Valette, toute cette série d'exemples que vous avez listés, est-ce qu'ils démontrent forcément que l'Europe est sur une pente glissante? Est-ce qu'on peut pas simplement y voir des cas isolés qui ne sont le fait que d'une petite minorité musulmane?
Mais bon. C'est le fait d'une minorité, mais tous les événements importants sont le fait d'une minorité. On ne va pas faire voter les musulmans pour leur demander s'ils veulent adhérer au radicalisme ou pas. Mais... Il se trouve que, justement, je n'ai pas encore mentionné l'extension incroyable du radicalisme, qui est l'objet d'ailleurs de mon deuxième livre qui s'appelle « Boulevard de l'islamisme » et qui montre à quel point une frange de musulmans crée des problèmes insensés. Nous avons laissé gérer des milliers de mosquées en Europe par des frères musulmans, groupes extrémistes, dans lequel, je suppose, quelques djihadistes trouvent leur nourriture.
Mohamed Hamdaoui.
Mais écoutez, je trouve très intéressant ce que vous venez de parler de l'histoire des mosquées. Moi, imaginons que demain, un de mes potes qui s'appelle François meurt, je pourrais aller lui rendre hommage dans une des nombreuses et magnifiques églises de ma ville de Bienne. Il y en a beaucoup, elles sont magnifiques. Si mon pote Saïd demain meurt, j'aurai aucune mosquée où aller lui rendre hommage, parce que les quelques qui existent, il y en a trois, on ne sait pas d'où, je ne connais pas le financement, je ne sais pas si je vais être surveillé par les renseignements généraux, je ne sais pas quoi. C'est ça la réalité de nous autres musulmanes et musulmans. Oui, vous rigolez, je ne sais pas.
Les renseignements généraux n'ont strictement aucun aucun pouvoir de surveiller les mosquées, monsieur Hamdaoui.
Je crois que vous êtes assez mal renseigné, c'est le cas de le dire. Mais peu importe, c'est simplement pour vous dire effectivement quelle est notre réalité. Vous êtes en train de parler du fait qu'il y aura une espèce de pullulement des mosquées en Suisse ou ailleurs. Et c'est vrai, c'est vraiment ridicule de dire une chose pareille. Je viens de vous citer un cas extrêmement concret, humain. Si quelqu'un de catholique, de juif ou autre meurt, qui est un de mes amis proches, je pourrais aller lui rendre hommage dans un lieu de culte digne de ce nom, moi pas, si c'est quelqu'un de musulman. C'est une réalité.
C'est notre
réalité. Mais vivez notre réalité. Encore une autre chose. Vous parlez d'islamisation. Pourquoi vous parlez pas aussi un tout petit peu de l'islamophobie? Il y a de ça quelques jours, en Suède, à Stockholm, une mosquée a été attaquée à plusieurs reprises. Ça n'a pratiquement pas fait la une des médias. Personne n'en a parlé.
Dieu sait qu'on en a parlé.
Et ça vous dérange qu'on en parle, Mireille Vallet?
Pas du tout. Et je condamne absolument ce genre d'actes. En revanche, je récuse totalement le terme d'islamophobie. Phobie qui signifie peur irrationnelle, une espèce de petite maladie mentale.
Je vous raconterai une anecdote
après. Les gens qui sont hostiles à l'islam ne souffrent pas de phobie. Ils ont un certain nombre d'arguments, ils ont des constats, on peut être d'accord ou pas, mais c'est totalement ridicule. Je ne vous entends pas d'ailleurs parler de christianophobie propos des persécutions des chrétiens. S'il vous plaît, dans les pays musulmans, et vous avez bien raison de ne pas en parler, puisque...
Et je serai le premier à le faire.
Discrimination des chrétiens fait partie de la doxa musulmane. Et si vous permettez, je pense qu'il est extrêmement important que chaque auditeur se renseigne lui-même. Je viens, par hasard, je suis en train de terminer la lecture du Coran de A à Z. Ce livre est absolument une...
Il a été écrit quand ?
Il est considéré comme la parole de Dieu, et le Saint-Coran est étudié dans toutes les mosquées de manière extrêmement intense. Et dans ce livre, toutes les deux pages, on entend des imprécations contre les incrédules, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas adeptes de l'islam. Nous sommes des menteurs, des bêtes, des perdants, des criminels et de nombreux autres.
Nous vivons dans quel pays ?
Cette religion ne tolère qu'elle-même. Elle est en guerre contre tous ceux qui n'y adhèrent pas dans ce livre.
Nous vivons dans
l'esclavage
quel pays, madame ?
N'est absolument pas condamné.
Nous vivons
le
dans
viol
quel pays ?
Des prisonnières de guerre est totalement autorisé. La castration est mentionnée sans aucune manifestation. Et je pense que personne ne devrait être légitimé à parler de l'islam sans avoir au moins lu le Coran. Moi, je ne demande pas que les auditeurs me croient. Je leur dis vérifier. Vérifiez la biographie de Mahomet. Qu'est-ce qu'on raconte qu'a fait Mahomet, la biographie officielle? Mahomet a, par exemple, capturé une tribu juive. Il a fait décapiter tous les hommes et tous les jeunes hommes de cette tribu, entre 600 et 900.
Est-ce que j'ai la possibilité
Vendu en esclavage les femmes et les enfants. Je ne demande à personne de me croire. Vérifiez quelques clics sur Internet.
Voilà, on a bien compris. Voilà. On a bien compris. Mohamed Hamdaoui, une brève réaction, et puis après on va se tourner un peu vers ce que disent nos internautes.
Mais bon, sans de bois, on vit dans un pays qui s'appelle la Suisse, où il y a des lois, où il y a une constitution. Est-ce que vous avez vu un article de loi qui permet la polygamie en Suisse? Est-ce que vous connaissez un article de loi qui permet des atrocités dont vous venez de parler? Moi, forcément qu'aujourd'hui, ma Bible à moi, c'est la Constitution, c'est la loi, c'est le code civil, c'est le code pénal, c'est pas le Coran. Mais arrêtez de dire absolument n'importe quoi. Si quelqu'un aujourd'hui commettait un crime au nom de l'islam, je serais le premier à le condamner, je serais le premier à le dire, t'es un merdeux. Il faut arrêter un petit
mais
peu
vous
avec ce style-là.
Mais vous êtes d'accord qu'il y en a beaucoup à condamner.
Mais simplement, une fois pour toutes, il faut remettre les choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais prochainement déposer une intervention parlementaire au niveau du Grand Conseil bernois pour dire qu'en Suisse, les lois humaines, c'est-à-dire les lois que nous faisons et que nous avons la possibilité de défaire, priment sur les lois que certains qualifient de divines. Là-dessus, on est d'accord, c'est une évidence absolue, mais ceci étant, le Coran, il a été écrit il y a 1500 ans. Moi, je vous raconte juste une petite chose.
Laissez-moi juste rajouter une phrase.
J'ai un livre de chevet, enfin, quand je dis de chevet, c'est le livre que j'ai aux toilettes. C'est le bouquin de Jean-André Chevalat, vous savez, la Suisse, enfin, le monde de 1789 à nos jours, est écrit dans les années 70. Je me tords de rire à toutes les phrases, à toutes les pages, parce qu'il y a des phrases qu'on pourrait même plus les dire aujourd'hui, que ce soit sur la colonisation, sur la neutralité suisse et sous. Lisons les livres avec nos yeux et pas avec les yeux de ceux qui les ont écrits.
Il est 8h22 sur la première. Nous débattons donc ce matin de l'idée selon laquelle l'Europe serait en voie d'islamisation. Elle est au cœur, cette idée du livre de Michel Houellebecq, Soumission, où l'auteur imagine la France de 2022 gouvernée par un parti musulman. La peur, l'islamisation, c'est aussi ce qui fait sortir dans la rue des dizaines d'Allemands chaque semaine sous la bannière du mouvement Pegida. Alors est-on là dans le registre de la paranoïa? Vos réactions, c'est au 0823 33 33 ou sur les réseaux sociaux. Muriel Balamont, le débat était particulièrement vif sur Facebook.
Oui, il y a une image de ce qui se passe ce matin sur Facebook, par exemple, une centaine de commentaires, c'est dire à quel point le sujet interpelle. Mais je vous propose de commencer avec cette réaction que nous a laissée Jean-Michel grâce à notre application En Ligne Directe.
Il n'y a malheureusement absolument rien d'absurde. C'est effectivement la direction dans laquelle l'Europe, tous les pays européens se dirigent. Et tous les dirigeants veulent nous diriger. C'est malheureusement effectivement le cas.
Et Stéphane est plus radical. Il n'y a effectivement rien d'absurde. Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre ou au début d'une totale soumission. À choisir, je préfère mourir les armes à la main. Evelyne sur Facebook dirait que oui, l'islam se répand. À quoi je le vois, demande-t-elle, à toutes ces femmes qui sont nées et ont toujours vécu en Europe et qui se voilent vers 20-30 ans alors qu'aucune des femmes de leur entourage n'est voilée. Et puis intervention également de nombreux politiciens sur Facebook. Jérôme Desmeules par exemple, UDC Valaisan, constate ils n'ont même pas besoin de gouverner, ils, donc les musulmans, pour avoir leur suffrage. Certains partis sont prêts à compromettre tous leurs principes, même la laïcité en France. Du coup, même avec moins de 10% de la population, leur influence est énorme et pas pour le meilleur. Ce à quoi Mathieu Béglin du Parti Socialiste Neuchâtelois répond, il ironise, vous auriez pu citer ce visionnaire norvégien nommé Breivik, c'est du même acabit, dit-il, que l'idéologie sous-tendant Pegida.
Mohamed Hamdaoui, franchement, c'est pas un peu extrême ça de dire Pegida, Breivik, même combat.
Qu'est-ce que je préfère effectivement Pegida parce que ça se passe sur une base démocratique et non violente, mais il y a effectivement un fond qui est commun. Moi, je suis franchement effondré par effectivement ce genre de remugle islamophobe que j'entends. Mais moi, j'aimerais que vous disiez, mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-le nous, franchement. Moi, j'ai envie de dire maintenant, ça fait 14 ans depuis ces saloperies d'attentats du 11 septembre qu'on se ramasse gifle sur gifle. Maintenant, lâchez-nous les babouches, foutez-nous la paix, et nous, mais on vous pose aucun problème. On fait partie de la société. Moi, je sais pas vous ce que vous faites dans votre existence. Moi, quand bien même je m'appelle Mohamed, quand bien même j'ai le prépuce qui est coupé, je participe à la vie de la société, je suis parfaitement intégré, je participe à la vie associative, à la vie culturelle, à la vie politique, à la vie associative, j'ai même envie de dire à la vie bistrotière de ce pays, et on va passer encore combien de temps à devoir entendre ce genre d'ânerie, je suis désolé de le dire, je le dis d'une manière un peu violente et virulente, parce que vous me poussez à être violent et virulent, ce qui n'est vraiment rarement mon cas.
Moi, j'aimerais revenir, si vous permettez, à propos de l'Allemagne, puisque vous dites que vous respectez la Constitution. De toute manière, j'en doute pas, vous avez l'air d'être un peu éloigné de la pratique musulmane, mais une enquête.
C'est quoi la pratique musulmane, au fait?
Non, je veux dire les rites. Je pense que vous fréquentez...
Vous limitez les musulmans à ça, le fait qu'ils boivent, qu'ils ne doivent pas boire de l'alcool, qu'ils ne doivent pas manger de porc, etc.
Mais en lisant le Coran, je ne vois que des rites.
À la vie,
cinq rites, c'est bon.
Mais lisez, passez
mais,
pas votre temps
voulais,
à lire le Coran.
Est-ce que je peux,
vivez,
est-ce que je
attendez,
dire,
vivez.
Je voulais vous faire part de sondages et enquêtes qui ont lieu en Allemagne. 63% des gens d'origine turque, donc qui est la plus grande immigration en Allemagne, se sentent turcs. 62% préfèrent vivre entre turcs. 50% souhaitent un retour aux racines de l'islam, le fameux livre du 7e siècle. 57% estiment qu'il n'y a qu'une interprétation possible du Coran.
Et il y a combien d'articles de loi en Allemagne qui s'inspirent du Coran?
On en arrive à votre constitution. 45% que les lois religieuses sont plus importantes que les lois séculières. Alors je ne doute pas que vous êtes un musulman très ouvert, mais je pense qu'il faudrait aussi ouvrir les yeux sur cette frange de musulmans qui posent des problèmes constants sur ce radicalisme, sur ces émeutes, sur ces agressions de policiers, sur ces égorgements dans les faits divers. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent mettre en rage la population. Et ça fait bien longtemps qu'elle est en rage et qu'elle montre qu'elle n'est plus d'accord avec ceci. Et je pense que les manifestations d'Allemagne vont faire des petits ailleurs. Il y en a d'ailleurs une qui est prévue le 18 janvier à Paris, organisée par Riposte Laïque, et je pense que ce ne sera pas la seule. Et
vous y serez, je ne me fais aucun souci
non,
là-dessus.
Non, je n'y serai pas.
Mais vraiment,
mais si c'était
jour,
chez moi, j'y serais.
Le jour, madame,
clair.
Où quelqu'un de cette frange, comme vous venez de dire, de musulmans, va venir déposer un projet de loi pour, je le répète, pour autoriser la polygamie ou je sais quelle autre sottise, il me trouvera sur son chemin parce que bien évidemment on est aux antipodes de ce genre de truc là. Il faut quand même rappeler qu'en Suisse 80 à 90% des personnes qui sont de confession musulmane, on a quand même aussi le droit de confession musulmane, mais nous ne sommes même pas pratiquants. On a effectivement on vit notre foi de manière extrêmement discrète et non ostentatoire. Si certains veulent venir se lancer ou vouloir avoir des articles de loi pour introduire des éléments de la charia, c'est le mot qui fait peur, ça en adore faire peur avec ce genre de choses-là,
mais qu'ils viennent,
et ils nous trouveront, et j'espère qu'on sera ensemble pour lutter contre ces gens-là, mais arrêtez de semer des peurs pour des choses qui n'existent pas. Dans ma région, dans l'Arc jurassien, on appelle ça, il y a une expression pour ça, c'est agiter la peur du manou. Vous savez ce que c'est le manou? C'est un espèce de personnage fantasmagorique qu'on agite comme ça pour faire peur aux gens, puis pendant ce temps-là, les gens y réfléchissent pas. Ben, c'est ce que vous faites. Nous sommes devenus les manous du 21e siècle, nous autres, les musulmanes et les musulmans.
Alors, je dirais simplement qu'il y a 30 ans que
attendez, Mireille Valette, on vient peut-être sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. On a évoqué notamment cette vidéo publiée le mois dernier par le Conseil central islamique.
Oui, c'est un internaute qui l'a mise en ligne hier soir. Ça a suscité beaucoup de discussions. Alors, pour rappel, cette vidéo a fait beaucoup parler d'elle. À la base, elle voulait protester contre l'interdiction de construire des minarets en Suisse. Cette vidéo voulait, selon ses auteurs, lutter contre l'islamophobie. Elle fait froid dans le dos à Isabelle, mais elle ne convainc pas un autre internaute, et il dit que c'est un mélange de jeux vidéo violents, et vous y croyez, demande-t-il.
Madame Daoui, vous disiez arrêtons d'attiser les peurs, Pegida ou Welbeck, etc. Ou Mireille Valette, arrêtez d'attiser les peurs. Mais bon, il y a aussi visiblement des musulmans qui tiennent un discours ambigu qui est justement à même aussi d'attiser les peurs. Non
mon Dieu, à moi, c'est Michel Audiard, les cons osent tous à ça qu'on les reconnaît. Je veux dire, ça, c'est tellement de ridicule ce que font les gens de la clique à Blanchot. Je veux dire, c'est une vidéo, mais c'est une vidéo qui est faite pourquoi? Pour faire parler d'elle, et puis visiblement, ça réussit. Voilà. C'est pas mal, c'est bien joué en termes de communication, ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin de passer par une agence de com de haut de gamme, mais c'est tellement nul.
Bon. Pourrais-je poser une question à monsieur Hamdaoui?
On vous écoute, Mireille Valette.
Pensez-vous qu'il y ait un lien entre l'islam et tous ces groupes de tueurs et de féroces qui s'en réclament?
Vous parlez de quels tueurs? Vous parlez de ceux qui sévissent en Syrie?
De l'État islamique, de tous ces groupes de djihadistes.
C'est une évidence. Dans l'islamisme, la base, le mot, c'est islam. Mais il y a sans doute aussi beaucoup d'autres raisons. Moi, je me pose la question. Pourquoi
c'est quoi le lien?
Si vous me laissez éventuellement la possibilité de répondre. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de convertis? De gens, c'est des jeunes paumés qui sont au fin fond de Los Angeles ou autre, qui tout à coup se convertissent à l'islam pour aller trucider des gens. Moi, je pense que là, il y a une véritable interrogation à se poser sur notre société où on a totalement banalisé la violence, où on fait qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent totalement exclus, qui ne se reconnaissent plus non plus dans notre société de consommation ou autre, et qui ont trouvé... J'ai une fois écrit un article qui s'appelait « De Goa à Gao ». C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, les gens qui étaient en mal de civilisation, ils allaient à Goa faire l'amour, et puis maintenant ils vont à Gao se faire sauter. C'est, pour moi, c'est une véritable source d'interrogation, et je ne pense pas qu'elle est fondamentalement dans l'islam, elle est dans le questionnement qu'on aurait à avoir de fond sur notre propre société, sur nos propres valeurs, et peut-être aussi réaffirmer un certain nombre de nos valeurs. Là-dessus, on pourrait se rejoindre pour effectivement discuter du fait qu'on a des valeurs occidentales, on a des valeurs démocratiques qu'il faut réaffirmer avec force et sur lesquelles on ne doit pas transiger.
Réaffirmer les valeurs, Mme Daoui, ça suffira, d'après vous, à apaiser banaliser les peurs, parce qu'elles sont réelles, ces peurs.
Mais elles sont, je suis même pas persuadé qu'elles sont autant réelles. Au sein de la vie, dans la vie réelle, moi, je les ressens pas. Je suis vraiment désolé, je passe pas mon temps à lire des livres, à passer sur Internet, à schnucker sur Internet. Je passe mon temps dans la rue, dans la vie quotidienne. Et je vois la ville de Bienne, il y a 30% d'étrangers, une très forte communauté musulmane. Et contrairement à ce que certains peuvent croire, il se passe bien. Je peux sortir le soir sans me faire égorger à tout bout de champ par quelqu'un qui va gueuler à la Wagbar. Il faut arrêter un tout petit peu d'avoir ces espèces de fantasmes-là. Moi, je pense que dans la vie réelle, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Et les cas où ça se passe pas bien, il faut les dénoncer, il faut taper du poing sur la table, il faut effectivement sanctionner. Moi, j'ai aucun problème à sanctionner des gens qui ne respecteraient pas notre ordre juridique et nos valeurs, mais il faut pas non plus peindre le diable sur la muraille en permanence sous prétexte de pouvoir vendre un livre et faire parler de soi.
Mireille Valette, vous avez l'impression que ça, c'est du déni, c'est de l'aveuglement que de minimiser cette peur au sein de la population?
Mais bien évidemment. Bon, encore une fois, je pense qu'il faudrait connaître un tout petit peu plus l'islam pour savoir de quoi l'on parle. Et vraiment, j'invite les auditeurs à le faire. Monsieur Hamdaoui fait comme si le Coran n'avait pas d'importance parce qu'il a écrit, il a été écrit au 7e siècle. Mais moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Le fait est que le Coran est toujours considéré comme la parole en ligne directe de Dieu. Chaque mot a été prononcé par Dieu et ce livre dit des choses totalement innommables, inacceptables et inhumaines. Et ce livre encourage à lutter contre toutes les religions qui ne sont pas l'islam.
Et c'est pour ça, on tourne en rond, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est évident que dans les démocraties occidentales, les lois humaines priment sur les lois divines. Mais ça, c'est une évidence. Et s'il faut marteler cette évidence et s'il faut l'ancrer dans la Constitution, moi, je veux bien le faire pour effectivement qu'on le sache. Et puis dès lors qu'on le sait, après, chacun vit sa vie dans sa vie personnelle. Si les gens veulent s'inspirer du Coran, veulent s'inspirer de la Torah, veulent s'inspirer de je sais pas quoi, qu'ils le fassent. Moi, franchement, je n'en ai rien à faire. Mais c'est clair que dans la vie sociale, dans la vie sociétale, les lois humaines, la Constitution, c'est notre alpha, notre oméga, c'est notre colonne vertébrale commune.
On va vous donner le mot de la fin, Muriel Balamont.
Oui, alors sur Twitter, les commentaires continuent. Hein. Nos intervenants sont interpellés. Pour Papa Mike, Mohamed Hamdaoui produit un discours classique, très bien rodé, du représentant musulman jouant sur l'émotion. Et puis Ariane pense que Mireille Valette est drôlement laxiste envers les terroristes qui ont attaqué les mosquées en Suède en ne les taxant pas d'islamophobes.
Voilà, on va rester en tout cas sur cette idée puisque c'est la fin de ce débat en ligne directe. On signale qu'on a eu quelques problèmes du côté du standard qui nous ont empêchés de prendre des auditeurs au téléphone. On s'excuse évidemment auprès d'eux dans tous les cas. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Mireille Valette, Mohamed Hamdaoui d'avoir participé à cette émission.